Voilà, donc c'est la partie conférence. Grand merci à Françoise. Et comme vous savez, pour ceux qui sont déjà venus sur les autres discussions du genre, cet enregistrement va devenir une émission radio. Et voyager sur les ondes FM, notamment de Radio Campus, avec beaucoup de bonheur. Et d'ici là, une émission se construit aussi, comme maintenant, dans une certaine dynamique. Et donc, moi, je vous propose de faire la partie atelier. Donc, on va réagir. Moi, je vous enregistre. Et j'ai vraiment du respect par rapport à une parole et par rapport à une intimité. Et donc, à tout moment, vous pouvez m'envoyer un mail pour écouter l'émission avant diffusion ou dire j'ai cité le prénom de quelqu'un, dans le fond, j'ai pas envie. Ben, voilà, donc moi, je peux vraiment opérer un filtre après.
Tu me l'enverras aussi parce que je vous ai raconté plein de trucs intimes, j'ai pas forcément envie que tu sois sur les ondes.
Oui, mais toujours, c'est vraiment l'idée que j'ai toujours depuis les 30 émissions que j'ai pu faire.
Que ça illustre bien, quoi, mais c'est pas la peine non plus de raconter sa vie à tout le monde.
Voilà, donc c'est clair que quand on est lancé, c'est un choix personnel de se dire ok. Ce sera sur internet, puisque c'est quand même une émission qui est écoutée assez largement et sur la bande FM. Voilà, donc vous faites un petit signe, question, j'arrive, et puis je vais faire le ping-pong ici entre tout le monde. Une réaction ? Ouais, voilà.
Si la première question est difficile, posez la seconde.
Moi, je voulais savoir une chose par rapport. Enfin, c'est propre sans doute à ton histoire, mais. Tu as l'air d'avoir une certaine facilité, enfin, je n'entends pas, ou tu n'en parles peut-être pas, d'avoir cette peur de l'abandon, parce que tu en parles, tu en as parlé dans la période 20-30, et puis un peu 30-40, mais plus 20-30. Et quand j'essaye de parler du polyamour et que je trouve que c'est intéressant, hein, des couples déjà engagés, ils disent « Ah mais non, mais c'est pas possible. » Enfin, on sent directement cette réticence, et moi-même, enfin, intellectuellement, je trouve ça génial, mais je sais que dans mes tripes, quand je suis dans une passion amoureuse, plus souvent dans une passion amoureuse, c'est la peur de l'abandon peut faire de gros dégâts. Enfin voilà, et enlever toute la partie raisonnée de ma personne. Et donc, par exemple, quand tu expliquais que après la période quand tu t'es occupée de tes enfants, quand tu as là ton mari était plus à papillonner à gauche et à droite. Là, par exemple, moi, je crois que j'aurais une grande, un grand sentiment d'abandon parce que non seulement on change de statut en tant que femme en devenant maman, et si en plus j'ai pas mon compagnon à côté de moi qui me dit mais tu es encore belle, désirable, etc. Moi, j'aurais personnellement mal vécu. Enfin, maintenant, j'en sais rien, mais voilà. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu, parce que peut-être tu as eu beaucoup d'amour ou peut-être que tu as été bien armée. Pour avoir une grande confiance en toi, ou enfin voilà, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui m'intriguait, tu n'en parles pas.
Je crois que tu as raison sur la question de bien armée. D'ailleurs, j'ai remercié mes parents au tout début du livre et mes plusieurs hommes, parce que je crois que la confiance qu'on a en soi, elle se construit toute petite. Et je ne dis pas que mes parents ont été des parents extraordinaires. D'ailleurs, ma mère, elle me disait, tu sais, on a fait comme on a pu. Hein. Elle n'avait pas de projet pédagogique particulier pour élever ses enfants. Et puis moi, j'avais peut-être une bonne nature, mais je sais que je n'ai jamais, jamais douté de l'amour de mes parents. Et je m'aperçois que très souvent, les gens qui ont peur de l'abandon dans leur relation amoureuse sont des gens qui, à un moment donné, ont douté de l'amour de leurs parents, parfois à raison, parce que leurs parents les aimaient pas assez ou s'en occupaient pas assez, parfois à tort, ils s'étaient mis ça dans la tête, qu'ils n'étaient pas aimés par rapport à leur frère ou leur sœur. Et moi, je sais que je ne me suis jamais posé la question, j'étais un peu comme le charbonnier, je me disais, c'est mes parents, donc forcément, ils m'aiment. Donc c'était peut-être tout à fait crétin, mais ça m'a donné une espèce de certitude. Et donc, ayant été aimée dans mon enfance, je me sentais aimable. Quant à l'histoire de l'abandon, quand j'étais avec les enfants petites, il y a des fois, ça m'agaçait de voir qu'ils n'étaient pas très disponibles, mais j'allais dire c'était beaucoup plus matériel sur le thème « c'est moi qui fais tout à la maison, j'en ai ras-le-bol ». Bon, ça, c'était plus ça. Mais par contre, sur l'abandon, j'y ai pensé, et puis même sur le fait de partir moi-même, j'y ai pensé dans ma première relation où je m'étais dit « mais dans le fond, j'adore cet homme ». Qu'est-ce qui fait que ça m'est arrivé deux fois dans ma vie de me poser la question, que je resterais. Et puis je ne suis pas partie. La première fois, parce que cet homme-là, lui, de toute façon, il ne voulait pas. Et la deuxième fois, c'était l'inverse. C'était un homme qui m'avait donné les clés de son appartement, qui m'a dit « tu me rejoins quand tu veux ». Et je me suis dit non, parce qu'on est dans une passion telle qu'une passion, ça ne dure pas. Une passion, c'est fait forcément pour s'écrouler. Et la vie commune, enfin, j'ai très vite fait la différence entre le fait de vivre avec quelqu'un et le fait de vivre une passion amoureuse. Donc les passions, je me suis toujours dit, c'est un truc fabuleux à vivre, mais ça n'est pas fait pour durer. Donc si à un moment donné, elle s'arrête, je vais souffrir comme une malade. Ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire là, on pleure, on a l'impression presque d'un manque de drogue, on n'a pas sa dose, on n'a plus son coup de fil, on n'a plus ça. Mais je savais que je m'en remettrais. C'est pour ça que je n'ai pas eu peur de la passion. Et par contre, quand à certains moments, ben, quand il a eu une relation très forte et qui a duré quand même 6 ans, je m'étais posé la question. Je m'étais dit, tiens, là, c'est peut-être vraiment qu'il a envie de me quitter parce qu'il fait vraiment une vie conjugale à côté. Et comme c'était une fille que je trouvais assez plate et tout, je m'étais dit sincèrement, s'il me quitte pour cette fille, eh ben, franchement, j'aurais pas perdu grand-chose. Là, vraiment, je me disais, non, c'est pas possible. Si vraiment c'est de ça qu'il a envie, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Là, j'aurais fait une grosse erreur. Et puis, total, il est revenu au bout d'un moment en me disant, j'aurais dû le faire depuis déjà il y a 3 ans. J'ai traîné. Bah, c'est marrant comme les hommes ont la difficulté à quitter, à finir des histoires. Ils laissent traîner des histoires pourries, mais parce qu'ils n'arrivent pas à rompre. Alors que les femmes, elles partent beaucoup plus facilement, j'ai l'impression. Et donc, je n'ai pas eu cette peur de l'abandon. Et puis, il y a eu cette fameuse expérience du congé sabbatique en Grèce, où je me suis retrouvée, alors que je savais qu'il avait une amie, que je savais que je quittais mon travail, que je laissais mes filles, que tout ça, je me suis retrouvée toute seule sur une île. Et le premier soir, je me suis dit, mais t'es complètement folle. T'es là, toute seule, sur une île où tu ne connais personne, bon, avec un projet d'écrire un livre, mais enfin, j'aurais pu le faire à Paris. Et puis, qu'est-ce que tu fais ? Puis le lendemain, je me suis réveillée dans cette île, et là, il y a eu un truc magique. C'est pour ça que la Grèce, je déteste tout ce qu'on dit aujourd'hui sur les Grecs, parce que moi, c'est un pays qui m'a vraiment sauvée. Avec l'harmonie qu'il y a là-bas, avec l'art de vivre qu'ils ont, avec cette espèce d'hospitalité chaleureuse, avec ce respect qu'ils ont, je me suis sentie tellement bien, tellement heureuse, que c'est un endroit où je retourne tous les ans quand j'ai besoin de me ressourcer. Et j'ai découvert que j'étais capable de vivre seule, de vivre heureuse. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, bah, même si j'étais abandonnée, tant qu'il vit quelque part, même si c'est sans moi, c'est pas grave. Je dois avouer que la seule angoisse que j'ai, je lui dis toujours, écoute, quand je mourrai, je veux ça et ça et ça à mes obsèques, ce qui l'énerve. Et il me dit, non, mais je mourrai avant toi. Et ça, je dois avouer que c'est un truc que j'ai beaucoup, beaucoup de peine à admettre, qu'un jour, je pourrai enterrer l'homme avec qui je vis depuis 40 ans. Ça, c'est. Mais comme d'ailleurs d'autres hommes de ma vie, hein, celui qui est le plus âgé actuellement. On en a parlé la dernière fois, comme quoi le pluriamour, ça peut amener des fois des réflexions profondes. Il me dit, tu sais, là maintenant j'ai 70 ans, en plus il y a quelques problèmes de santé. Il me dit, un jour je disparaîtrai, et sans doute avant toi, ça serait plus logique puisque je suis plus âgée que toi. Il ne faut pas que tu pleures parce que j'ai eu une vie formidable, et puis on a vécu des moments formidables. Alors je lui ai répondu, bon, ça je ne te promets pas que je ne pleurerai pas, mais je sais qu'on aura vécu des belles choses. Donc le seul abandon vrai, c'est la mort, et encore... Et encore, j'ai déjà perdu quelques hommes de ma vie qui sont morts. Et pour moi, ils ne sont pas complètement morts. Il y en a un où je connais ses parents. Son père, d'ailleurs, vient de mourir. Et je suis allée voir la maman et qui me dit « Ah, je sais combien vous étiez liés. » Parce que cet amoureux-là, je l'avais bien avant de connaître mon mari. Je l'ai connu vraiment au lycée. Puis c'était un amour de ma vie, mais on n'était pas sortis ensemble. J'étais folle amoureuse comme on l'est à 15 ans. 16 ans. Et puis, sur le coup de 25 ans, je me suis dit, il y a un truc pas fini entre nous. Je suis allée le trouver là où il était, et là, on a enfin fait l'amour. On l'a fait qu'une seule fois dans notre vie. C'est pour dire que des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup. Et après, je l'ai suivi, on est devenus amis jusqu'à sa mort. Et sa mère m'a dit, je savais combien vous étiez liés. Puis elle me dit, de toute façon, dans un de vos livres, c'est de lui que vous parlez. Et en fait, elle a complètement deviné notre relation. Et du coup, je lui ai offert aimer plusieurs hommes. Je n'osais pas lui offrir parce que je parle de lui vraiment à un moment donné. Je n'osais pas. Puis elle m'a dit, je savais. Mais elle me dit, c'est bien que vous ayez eu cette relation et que vous l'ayez accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Et pour moi, le fait d'aller voir ses parents, ça le prolonge. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas peur de l'abandon. Et puis, ce n'est pas matériel, puisque je gagne ma vie aussi. Non, il y a vraiment que le fait de voir souffrir et disparaître les gens que j'aime, ça, oui, je n'aime pas. Mais sinon, je n'ai pas peur.
La première question. Est-ce qu'on a eu la deuxième, si je vais...
Mais alors, vous en êtes où ? Racontez ! Des questions que vous vous posez, selon vos âges.
Mais voilà, moi je débute, j'ouvre un nouveau livre J'ai été mariée pendant 16 ans, exclusivement monogame, jamais trompée, jamais d'infidélité, parce que j'en recevais pas le besoin, parce que j'avais pas confiance en moi, et que je me disais que c'était le seul homme qui voulait de moi, puis c'était tout. Puis, j'ai 2 enfants, je me suis mariée très jeune, enfin, j'avais 23 ans, j'ai 2 enfants. J'ai une fille de 18 ans et un fils de 16. Et 38 ans, comme il paraît que ça prend beaucoup d'hommes, ça m'a pris aussi. Je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse très fort de quelqu'un. Mon mari, je me suis mariée, mais je n'étais pas amoureuse de lui. C'était plus un choix, c'était une raison, c'était un bon père pour mes enfants, ça l'est toujours. Mais j'étais pas amoureuse de lui, je pense que lui non plus. On s'est mis tous les deux, on avait une déception et on s'est dit, pourquoi pas, en fait la vie c'est comme ça, on fait un chemin. Voilà, donc j'ai été très fort amoureuse de quelqu'un, c'était une passion destructrice. Cette personne n'était pas libre, cette personne ne m'aimait pas. J'ai mis longtemps avant de le comprendre, j'ai cru qu'avec le temps, avec de l'amour, avec de la tendresse, de la compréhension et beaucoup de sexualité comme il aimait, j'arriverais à toucher son cœur, ce que je n'ai jamais réussi à faire. Et il habitait très près de chez moi. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais autre chose dans ma vie. Je ne voulais plus vivre cette vie factice. Je ne voulais plus de cette relation avec mon mari qui était un homme qui ne me regardait pas, qui ne me voyait pas, qui ne savait rien de moi en fait. J'avais l'impression qu'il était un poisson dans son aquarium et que nous, sa petite famille, moi, sa femme, on était l'étiquette derrière pour qu'il se sente bien. À un moment donné, je me suis dit, mais ma vie, c'est pas ça. Donc, j'ai tout cassé. J'ai eu difficile. J'ai pleuré jour et nuit pendant 1 an et demi. Savoir ce que je voulais, ce que je devais faire. Et je me suis dit, je peux pas mentir à moi-même, tout simplement. Donc, je suis partie, en grande partie, pour sortir des griffes de l'autre personne dont j'étais fort amoureuse et qui ne me respectait. Même pas. J'ai fui. Et puis j'ai eu des tas de conquêtes et des tas d'aventures. Chaque fois, je croyais. Chaque fois, je me suis dit, allez, tu en vaux la peine. Parce que j'ai pris la conscience de la valeur, enfin, de la valeur de ce que je suis. Donc, pas jalouse. Même si l'autre personne n'était pas libre. J'ai jamais... Voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup d'hommes, ce qu'ils cherchaient, c'était la sexualité, tout simplement, sans amour. Et ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Être maîtresse, si c'est juste une histoire de pieux, franchement, ça m'intéresse pas. Donc j'ai commencé, il y a déjà 4 ans, j'avais lu Les Vertus du polyamour. Parce qu'au départ, j'ai cru que je pourrais composer entre mon mari et la personne dont j'étais folle amoureuse. J'ai fait lire le livre à mon mari à l'époque. Il m'a dit oui. Peut-être, je ne sais pas si je suis capable, voilà. Mais bon, j'ai aimé le fait qu'il lise, mais de toute façon, en fait, moi, je ne l'aimais pas. Donc, polyamour, c'était déjà tronqué au départ, puisque je n'étais pas amoureuse de lui. Donc voilà, donc maintenant, je me renseigne, je suis sur tous les sites que je peux voir pour lire, pour apprendre, regarder toutes les vidéos qui passent, parce que je me dis, c'est ça que j'ai besoin. Je suis quelqu'un de libre et d'autonome. Je n'ai pas besoin de quelqu'un... matériellement, financièrement, je vis ma vie, mes enfants sont grands, je voyage. Moi aussi, j'ai appris, pas ouvrir les huîtres, mais quand j'ai décidé de partir, j'ai fait plein de choses. J'ai pris mon sac à dos, je suis partie en voyage, j'ai été au Sénégal, j'ai fait plein de choses. Je suis fière de la personne que je suis et j'ai envie d'être avec quelqu'un et non pas besoin d'être avec quelqu'un. Donc voilà, c'est pour ça que je m'intéresse vraiment très fort à tout ça. Voilà.
Non, mais moi, ça ressemble un peu à son histoire, dans le sens que... Enfin, non, j'ai d'abord vécu, et je me suis mariée tard, moi. Et j'ai eu mes enfants tard. Et quand je me suis mariée, je me suis dit, maintenant, j'ai pris cette responsabilité d'avoir des enfants. Et donc, comme elle, je n'avais pas le temps de faire autre chose. Enfin, je voyageais beaucoup parce que j'étais hôtesse de l'air, donc j'ai beaucoup voyagé. Mais quand je rentrais chez moi, j'avais une vie monogame, etc. Et après 20 ans de mariage, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, mes enfants étaient grands. Et je me suis dit, mais je suis éteinte, je suis morte. Et voilà, et j'ai voulu revivre. Et en fait, j'ai une période maman, j'ai eu ma période avant et ma période après où je suis redevenue moi. Et à ce moment-là, ben, j'ai recommencé à vivre. Mais ça ne veut pas dire que j'ai multiplié les amants. J'ai des amitiés amoureuses. Parce que moi, je ne me considère pas comme libertine ou polyamoureuse sexuellement. J'ai eu des discussions avec d'autres ici à ce point de vue-là où je maintiens que j'ai des amoureux et que ce n'est pas parce que on n'a pas de relation sexuelle que ce n'est pas mon amoureux. C'est un ami avec qui j'ai une relation tendre et profonde et qui dure depuis déjà des années. Et voilà, c'est comme ça que moi je vis le polyamour. Voilà.
Sur ces deux témoignages, on retrouve un peu ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a souvent aux alentours de la quarantaine une remise en question, parce que peut-être aussi, ou à 50, où on se dit je suis à mi-vie ou un peu plus, est-ce que vraiment j'ai vécu la vie dont j'avais envie, est-ce que ça correspond à ce que je suis? Parce que finalement, l'idéal, c'est de se dire, j'ai des rêves de vie, ou j'avais des rêves de vie quand j'avais 20 ans, où en suis-je à cet âge-là? Est-ce que réellement ça correspond à mes rêves? Et il y a des gens qui restent dans leurs rêves toute leur vie en s'accrochant à leurs rêves, mais en se lamentant, en se disant, ben non, c'était pas possible, j'ai loupé ma vie. Et puis d'autres qui, comme vous, rompent à un moment donné et se disent, bon, ben maintenant, je vais faire coller ma réalité pour qu'elle ressemble à mes rêves. Alors ça sera parfois douloureux, parce que toute rupture est douloureuse, même quand on n'aime pas la personne. La rupture est douloureuse parce qu'elles auront des habitudes, parce qu'elles auront une certaine sécurité. Mais ça, c'est salutaire parce que ça permet de découvrir ce qu'on est soi. Dans le pluriamour, moi je trouve que je vous parlais de la découverte des autres, mais je crois qu'il y a quelque chose d'hyper important, c'est qu'on se découvre soi aussi. On se découvre multiple dans sa façon d'aimer, dans sa façon d'aimer sexuellement ou d'aimer amoureusement ou d'aimer, enfin dans toutes les façons d'aimer. Et puis on se découvre aussi dans d'autres réactions qu'on a par rapport à la vie. Et donc c'est important parce que moi je me dis que si j'avais connu qu'un seul homme, il y a un tas de facettes de moi que je ne connaîtrais pas. Donc ça aussi c'est un des gros apports.
Non, mais je pense qu'il faut être un peu comme vous. Moi, j'ai aussi des parents qui m'ont aimée et je me suis sentie aimée et j'ai une certaine assurance. Et parce qu'il faut oser. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne le savent pas parce qu'elles n'osent pas.
Et puis il y a aussi un contexte social, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, j'ai reçu beaucoup de lettres après aimer plusieurs hommes là-dessus, qui étaient, mais je pense comme vous, il y en avait même qui avaient eu des amants mais en cachette, et j'aimerais tellement ne pas le faire en cachette, mais vous savez, que vont penser les gens, quoi. Le regard des autres est quelque chose de terrible. Le poids social et le regard des autres, et c'est vrai que moi je me sentais équilibrée dans ma tête, mais le poids, le regard des autres, les commentaires que faisaient les gens, et puis du fait que je sois journaliste et que j'avais écrit sur le sujet, forcément les gens le savaient, c'était pesant parfois, c'était pesant. Et c'est la seule fois où je suis allée voir un psy, c'était uniquement pour ça, pour lui dire tout le monde me croit folle, moi je pense que je ne le suis pas du tout, mais faites-moi donc un certificat de folie, comme ça on me foutra la paix. Et donc ça l'a beaucoup fait rire, il m'a dit attendez on va discuter de ça, vous n'avez pas l'air trop mal, et donc j'ai fait des séances de réflexion avec lui là-dessus, jusqu'au jour où vraiment en pleine séance je lui dis ben, je suis comme ça et alors? Il m'a dit ben, alors vous n'avez plus besoin de moi. Et c'est vrai qu'à partir de là j'ai une espèce de libération, parce que c'était la seule chose qui me bloquait, c'était de me dire mais le poids des gens, des commentaires derrière, notamment de mes consoeurs journalistes, on peut croire qu'ils sont plus ouverts mais pas du tout, c'était parfois pesant. Ça allait de plaisanteries stupides, hein, du style mon téléphone mobile qui sonnait, puis on me disait ah, t'as mis une sonnerie, te connaissant j'aurais plutôt mis un vibreur. Vous voyez, c'était vraiment un petit niveau. Hein. C'était fin. Bonjour les poètes. Voilà. Et donc, c'est vrai que se délivrer, se libérer du regard des autres, c'est quand même c'est une vraie liberté. Alors, les hommes l'ont un peu moins, parce que les hommes de tout temps, on a dit qu'ils avaient des besoins irrépressibles et qu'il fallait ce qu'il faut. D'ailleurs, ce n'est pas irrépressible, ça ne les rend pas malades s'ils les contraignent. Hein, mais on a tellement dit que c'était naturel qu'eux ont moins de difficultés à assumer des désirs multiples. Tandis que pour des femmes, à qui on a dit toujours « une femme honnête n'a pas de plaisir », c'est quand même très compliqué.
Il y a des gourmandes.
Bien sûr. Il y a des gourmands, il y a des gourmandes. Et je trouve que d'ailleurs le terme gourmand et gourmande est très joli, parce que ça a un côté vraiment sympathique d'amour de la vie.
Non, mais je crois qu'on diabolise le plaisir aussi. Hein. La religion a fait beaucoup, à ce niveau-là, beaucoup de mal en diabolisant le plaisir. En fait, il n'y a aucun mal à ça. Et il y a beaucoup de femmes qui, justement, pensent que c'est mal d'avoir du plaisir. Et là, il y a un gros problème.
Oui,
J'avais été frappée par la liberté sexuelle à Cuba, où je suis allée plusieurs fois pour le travail ou en vacances. Et j'en avais parlé qu'à un Cuba, parce que là-bas, les hommes et les femmes sont très libres, les deux. Les femmes pouvant aborder un homme. J'ai rencontré un monsieur, un jeune homme, qui saluait son grand-père en disant « Bonjour grand-père, est-ce que tu bandes encore ?» Alors je lui ai dit « Bah dis donc, moi j'oserais pas dire ça à mon grand-père. » Et il me répond « Ah bon ? Parce que c'est quand même vraiment important pour un homme, et pour lui c'est très naturel. » Et ils m'ont expliqué qu'en fait c'était lié au contexte historique, preuve qu'on est quand même le produit d'un contexte. Ils disaient, bon déjà on a un métissage espagnol et africain, beaucoup de métissage à Cuba, de gens qui se vivent au soleil, sont sur le plan sexuel assez chaud et ardent. Ils n'ont pas eu la religion à cause de l'interdiction de la religion pendant des années par Fidel Castro. Ils avaient l'égalité homme-femme décrétée par les lois communistes, donc les femmes se sont senties aussi libres que les hommes d'avoir la même vie sexuelle. Et par ailleurs, ils manquaient d'argent, ils n'avaient pas le droit de sortir de l'île. Le sexe devenait le loisir le plus simple, le plaisir le plus simple à avoir sans avoir à payer. Et donc tout ça a favorisé chez eux une sexualité très libre. Et qui n'a pas été du tout... néfaste, comme certains le disent, parce qu'il y a beaucoup plus de prostitution au sens cracra du terme, trafic et tout, en République dominicaine, qui au contraire a été très serrée, ou en Jamaïque, ou même en Guadeloupe, qu'à Cuba. Donc c'est encore un truc, la liberté sexuelle n'amène pas forcément les femmes à devenir d'horribles prostituées.
Je trouvais ça intéressant ce que tu disais sur se libérer du regard des autres, parce que finalement, moi qui a annoncé ça il y a environ 6 mois, mes amis et ma famille, je trouve qu'au final, avec le recul, enfin mon petit recul, que ça s'est passé assez facilement, hein, que c'était plus ma peur qu'il a fallu surmonter que finalement le regard de l'autre, parce que quand on se sent bien avec ça, l'autre te voit et puis tu dis bon ben ça c'est bizarre mais ça a l'air d'aller, et finalement les seuls trucs qui ont été compliqués à gérer pour moi, c'est par exemple ma mère qui me disait « Oui, mais arrête d'en parler. » Alors que moi, je ne voyais pas où était le problème d'en parler. Mais elle me disait « Oui, mais enfin, maintenant c'est bon là. Allez, maintenant ça suffit, arrête parce que les gens vont penser de toi que... » Je dis « Ben, les gens vont penser de moi ce que je suis. » Et puis, ben, c'est tant mieux parce que comme ça, ils arrêteront de m'emmerder. Et moi, je pourrais me promener dans la main avec un amoureux ou avec l'autre amoureux sans qu'ils se fassent un film genre oh, « Elle le trompe et qu'est-ce qu'on va dire à son mari ? Oh là là, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je préfère être vue comme quelqu'un qui... et deux amoureux qui sont au courant tous les deux plutôt que quelqu'un qui trompe son mari. Et puis, je ne veux pas que mon mari ni que mon autre amoureux... soient vus comme des pauvres pigeons manipulés par une femme. Moi, je les aime suffisamment pour qu'ils aient une vraie place, quoi. Mais donc, je trouvais ça très juste, vraiment, c'est en soi, en fait, se battre contre la peur qu'on a, nous, du regard des autres.
Alors, il y a des fois où le regard des autres peut être gênant, c'est au niveau professionnel, pas dans toutes les professions, hein. Mais par exemple, en France, et j'imagine peut-être en Belgique, les fonctionnaires... ont ce qu'on appelle un devoir de réserve. Alors, le devoir de réserve, ça ne veut pas dire qu'ils doivent vivre d'une façon exemplaire. Hein. On a connu un directeur du FMI qui ne vivait pas d'une façon exemplaire. Mais le devoir de réserve, ça implique, par exemple, qu'on ne doit pas dire en public la façon dont on vit. Moi, ça m'est arrivé sur un tout autre sujet, qui était pourquoi je quitte l'administration, puisque j'ai été fonctionnaire. Heureusement, j'avais déjà démissionné, donc mon article a pu passer sans problème. Et j'avais interviewé quelqu'un qui lui restait et me disait beaucoup de bien de l'administration, alors que moi j'en disais plutôt du mal. Et lui a eu un blâme parce qu'il aurait dû demander l'autorisation à son supérieur hiérarchique pour répondre à l'interview. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, si vous avez un article comme celui qu'on a montré tout à l'heure et que vous êtes fonctionnaire, votre supérieur hiérarchique peut vous dire « Mais dites donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous êtes en train de raconter des choses... un peu subversive, sans avoir demandé autorisation, ça va nuire à la réputation de notre maison. Si vous êtes dans l'enseignement, il y a des endroits où c'est plus compliqué. Là, récemment, il y a une blogueuse qui a été suspendue de son poste d'institutrice parce qu'elle a un blog érotique. Alors que, bon, là, il y a une levée de bouclier, je pense que ça va se calmer, mais où les gens ont dit, mais c'est sa vie privée, etc. Mais c'était manquement à l'obligation de réserve. Sinon, tu as tout à fait raison sur ce que ressentent les gens. Moi, quand j'ai commencé à en parler, je me suis dit, oh là, sur le plan notamment professionnel, ça va être compliqué. Eh bien, pas du tout. Et pourtant, j'étais journaliste médical scientifique, donc je voyais des chercheurs, et ils avaient pour la plupart, ils m'avaient vu à la télévision. Ils me disaient, mais c'est pas vous que j'ai vu à la télévision. Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Et à chaque fois, ils me disaient, si vous êtes capable de parler de ces choses-là ou d'écrire ces choses-là, vous allez pouvoir très facilement pouvoir écrire un article scientifique. Ils pensaient au contraire que ça me donnait une ouverture d'esprit, un atout. Et je me suis rendu compte aussi que les gens, ils se préoccupent d'abord d'eux-mêmes. Donc vous leur dites comment vous vivez, sur le moment ils peuvent avoir une petite réaction, soit viscérale, soit moqueuse, soit un petit peu surprise, mais très vite ils l'ont oublié, parce que très vite ils sont sollicités par d'autres problèmes, par d'autres questions, et bien souvent j'ai entendu, ça te regarde. Et quant à mes parents, et notamment ma mère, parce que mon père est mort prématurément, donc on n'a pas eu beaucoup le temps d'en parler, mais ma mère on en a parlé, et ça a eu une conséquence vraiment que moi j'ai beaucoup appréciée, c'est que du coup elle m'a parlé de sa vie de femme, alors que d'habitude les parents parlent peu, et moi elle m'a parlé de sa vie de femme, elle m'a même dit, tu sais, j'étais très fidèle à ton père, mais c'était pas par vertu, c'est parce qu'à l'époque il n'y avait pas de contraception et que je voulais pas avoir d'enfant de n'importe quelle rencontre, mais j'ai été sollicitée, je dois avouer qu'il y a des fois j'ai été tentée, donc on a parlé de ça, et puis du coup elle-même elle admettait que ça pouvait arriver qu'on ait d'autres désirs, même si elle avait adoré mon père, et ça nous a permis de parler de choses, je pense, dont on n'aurait pas parlé si elle avait pas su comment je vivais. Et à un moment où c'était un petit peu tendu avec mon mari, je lui en ai parlé, parce que je lui ai dit, tiens, je viendrai seule à la maison cette semaine-là, où on devait partir en vacances. Et elle m'a dit, ah bon, vous vous séparez? Je lui ai dit, non, mais en ce moment, on a un petit problème. Enfin bon, donc je lui en ai parlé. Et elle m'a dit, bon, mais de toute façon, même si vous vous sépariez, tu lui dis que ça me ferait plaisir qu'il vienne me voir, hein, parce que moi, je l'aime en tant que personne, hein, c'est pas parce que c'est ton mari. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié, ce qui n'a pas été le cas de mes beaux-parents. Eux, ils m'ont mis de côté. Mais je veux dire, c'était quand même très agréable de se dire aussi qu'elle regardait Bernard comme une personne à part entière, parce que moi je suis très attachée à cette notion de personne. J'aime pas les gens parce qu'ils sont mon mari, mon amoureux, ma fille, etc. C'est parce que c'est des personnes que je trouve intéressantes, avec qui je vis de beaux moments. Donc c'est très bien, ça enlève ces cloisonnements qui finalement séparent. Alors les garçons, il n'y a que les filles qui parlent.
Je ne suis pas encore à ce stade-là où on va me mettre dans une seigneurie, un hospice, un mouroir quelconque, mais j'y pense énormément, évidemment. Est-ce qu'on me donnera une chambre à un lit, une chambre à 30 lits, mais avec ceinture de chasteté incluse tacitement dans le package? Ou bien me proposera-t-on effectivement une liste de chambres selon le nombre d'amantes à cet instant-là, variable avec le temps? Et c'est une question que je me pose et qu'en fait, je suppose que n'importe qui peut se la poser, à moins d'avoir déjà un plan de carrière fait avec un palais, 50 serviteurs et und so weiter. Et voilà, c'est une question comme ça que je partage, à laquelle je n'apporte évidemment aucune réponse. Je ne connais pas l'avenir, ni les désirs que j'aurai à l'avenir, si ça se trouve. Voilà.
Mais n'empêche que c'est une vraie question, parce que là, même pour les couples monogames, il y a encore des maisons de retraite, de repos, où on sépare les couples. Où d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, ce qui est quand même une horreur absolue. Alors si on leur dit, attendez-moi, je vais avoir des visites, et puis ce ne sera pas toujours la même personne, pour l'instant, ça doit être assez compliqué à faire admettre. Mais il y a quand même des progrès, puisqu'on a eu quand même pas du tout dans le côté mouroir et vieillesse, mais dans le côté accouchement, une de nos pluriamoureuses qui a accouché, qui a exigé qu'il y ait à la fois son amoureux, le père de son enfant, et l'autre amoureux qui est devenu parrain de sa fille. Et c'était au départ à l'hôpital, ils étaient un petit peu effarés. Et puis finalement, à la fin, en voyant d'ailleurs plein de gens qui venaient voir le bébé, parce qu'on se sentait tous un peu, c'était notre premier bébé dans le groupe et tout ça, eh bien, ils ont commencé à trouver ça rudement bien. Et donc, ça leur a ouvert l'esprit que c'était bon. Le seul truc, c'était juridique. Ils disaient, oui, mais alors ça va être qui vraiment, comment vous allez vous organiser? Mais ils ont quand même complètement admis que sur la photo, il y ait les deux hommes et la femme et le bébé. Ce qui est déjà un progrès.
J'ai une question, mais vu que, comme toi, je pense, je suis plus dans le démarrage, hein, enfin, je trouve ça très chouette en théorie, mais je n'ai jamais concrétisé ça dans ma vie de tous les jours. Et donc, Alors, je m'adresse à ceux qui concrétisent ça déjà dans leur vie de tous les jours. Comment, quand ils rencontrent une nouvelle personne qui les intéresse, comment ils se présentent? Enfin, comment est-ce qu'ils en parlent? Comment est-ce qu'ils mettent ça sur le tapis? Parce que, enfin, voilà, je me pose la question. Parce que, voilà, je commence à avoir des nouvelles rencontres. Mais je me dis, mais tiens, qu'est-ce que je lui dis à ce gars ou...
Ah. Pour moi, il n'y a pas de solution. Il faut que tu te dises tout de suite. Quelle est tes opinions, ta manière de voir les choses. Parce que si tu ne dis pas tout de suite, après, c'est un truc à récupérer. Mais alors là, et puis, ça te permet de voir qui tu es en face de toi en même temps. Donc, bah, tu peux avoir des déceptions parce qu'il y a des gens qui vont te fermer les portes.
Ah ouais,
mais d'un autre côté, ça peut aussi... Tu vois quelque chose... Et il y a une discussion qui peut s'établir tout de suite sur ça. Évidemment, tu es obligé, du coup, de lui dire qu'il te plaît. Parce que si tu parles de ça, c'est que, quelque part, tu es intéressé. Donc, il faut un peu de courage. Mais ça vaut le coup. Et moi, j'ai plus de facilité parce que maintenant, tous mes amis et toutes mes connaissances savent que je suis polyamoureuse.
Mais tu sais donc... que tu l'es. Enfin, toi, tu as déjà concrétisé et tout. Tu le sais, moi, je suis encore très théorique.
Ça aide.
Moi, j'ai l'avantage, c'est que tout le monde le sait. Donc maintenant, c'est plutôt si je leur disais je suis monogame qu'ils ne le croiraient plus. Mais par contre, quand je n'avais pas écrit mes livres et qu'il y avait très peu de gens qui le savaient, enfin, il y avait mon entourage proche, mes amis, mais pas tout le monde, j'avais une formule, je disais je suis très fidèle, mais pas exclusive. Ce qui est exactement ça, parce que je suis hyper fidèle aux gens que j'aime, mais pas exclusive. Et finalement, ça passait bien. Ça passait bien, ça surprenait, mais ça passait bien.
Dans fidélité, il y a deux notions, la durée et l'exclusivité. Fidèle en durée, pas en exclusivité.
C'est même pas dans le terme français de fidélité n'inclut pas l'exclusivité. C'est nous qui le mettons avec notre connotation judéo-chrétienne. Le mot en lui-même, c'est le respect de ses engagements. Voilà, c'est ça la fidélité.
C'est...
Et donc, j'aime beaucoup ce distinguo exclusivité, fidélité. Maintenant, ce qui me gêne un tout petit peu, si je peux venir avec un contre-argument pour que ça ne soit pas trop consensuel. Pourquoi dire « je suis polyamoureux » hein? Moi, à certains moments, je suis polyamoureux, à certains moments, je ne le suis plus. Je peux accepter l'idée du polyamour sans l'être, sans le vouloir être, Je veux dire que j'agis comme un polyamoureux à certains moments, j'agis comme un monogame à certains moments et j'agis comme un abstinent à d'autres moments. Mais je ne suis ni l'un, ni l'autre, ni la troisième solution non plus d'ailleurs. C'est oui. Ça. Je trouve qu'il y a à un certain moment une forme de revendication que je comprends parce qu'effectivement on reçoit des avis parfois négatifs qui font qu'on doit un peu se battre contre une pression sociale dont on parlait tantôt, etc. Mais finalement, ça arrive à me gêner presque de devoir presque systématiquement faire une forme de prosélytisme. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est
une petite réflexion. Pas. Mais parce que quand tu commences une relation, tu ne peux jamais savoir ce qui va se passer dans cette relation.
Bien sûr.
Si tu as d'autres relations ou quoi, et à partir du moment où toi, tu admets le fait d'avoir plusieurs relations, même si à un moment donné, tu n'en as qu'une, tu n'es pas dans l'exclusivité. Or, j'ai en principe des monogames, n'envisage qu'une relation que suivant le type monogame. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des termes du genre tromper, maîtresse et compagnie. Pour quelqu'un qui vit des relations multiples, tromper ne veut rien dire, hein, puisque dès le départ, je dirais que les relations multiples sont prévues.
Oui, on est dans la transparence, on
c'est
ne trompe pas.
C'est pas la transparence.
Hein. Une forme de...
Une forme de transparence,
parce que
comme disait Saint-Père.
J'ai vu des gens se tromper dans le polyamour. Je veux dire qu'à partir du moment où on a deux amoureux et qu'on en prend un troisième sans le dire aux deux autres, pour moi, ça devient une forme de tromperie malgré tout. Et que on... Voilà, où on met les limites et quels mots on porte là-dessus, c'est très discutable, finalement, tout ça.
Je
Par rapport au fait de ce qu'on doit dire ou pas, je crois qu'il n'y a pas de règle stricte, parce qu'il y a des grandes discussions sur les sites là-dessus. Ah oui, toi tu dis pas, alors t'es pas totalement pluriamoureux. Il y avait une femme qui avait essayé d'en parler à son mari, il s'était complètement fermé, bloqué, et elle avait dit, tu fais ce que tu veux, mais je veux pas le savoir. Et je pense que ça aussi, c'est une revendication que peut avoir quelqu'un dans un couple, de dire, ok, je sais que tu as ça dans la tête, je sais que ça peut t'arriver, mais moi, j'ai pas envie de le savoir quand ça t'arrive. Tu me dis juste, je sors ce soir, et tu me racontes pas ta soirée le lendemain. Et ça, ça peut être aussi un choix, parce que, bon, moi, je suis quelqu'un de franc qui peut raconter, mais il y a d'autres personnes qui n'en ont pas envie. Je vois pas pourquoi, je connais aussi des hommes qui me disent, bon, moi, ma femme, si je lui raconte ça, donc... Elle sait que tu existes, je lui dis que tu es une de mes amies, je ne vais pas dire exactement la nature de nos relations. Et moi, je leur dis, toi, tu gères en fonction de ce que tu connais de ta femme. Moi, je ne la connais pas forcément, ou je l'ai croisée par hasard, mais je ne la connais pas. C'est à eux de savoir, parce qu'on n'est pas tous fait pareil, et c'est à chacun de savoir ce qu'il est apte à pouvoir entendre. Il n'y a pas, tu dis ça, donc tu es un polyamoureux, tu ne dis pas ça, donc tu ne l'es pas. Mais pour revenir à l'être... si je crois qu'on est pluriamoureux, même quand on a des périodes monogames. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce que m'a dit Martine Asselin. Elle me dit en ce moment, pour des questions de temps, de tout ça, j'ai pas d'autres personnes. Mais dans ma tête, la porte est toujours ouverte. Simplement, en ce moment, je l'emprunte pas, la porte. Mais on n'a pas refermé dans l'exclusivité. C'est plutôt ça, être pluriamoureux, c'est pas, ça se compte pas au nombre de relations. Ça se compte au fait qu'on se dit... Je n'exclus rien a priori quand je rencontre quelqu'un. Voilà, je n'exclus rien, je ne sais pas du tout si on va juste discuter, si on va avoir de la tendresse, de l'amitié, si ça va durer, si ça ne va pas durer, mais je n'exclus rien. Et c'est plutôt ça, mais ce n'est pas de prosélytisme, parce que je ne demande pas aux gens d'être tous pluriamoureux, bien au contraire, il y a beaucoup de gens qui ça ne convient pas.
Oui, oui. Pour... Pour répondre à ta question, le fait de se présenter, ben oui, on peut se présenter comme polyamoureux. Il faut juste aussi, enfin, c'est ce que moi je remarque, c'est que si on se présente comme polyamoureux, il faut pouvoir entendre aussi que certaines femmes ou certains hommes vont dire « Ah, quoi, le polyamour ? Ah non, non, alors je ne veux pas de relation. » Donc il faut, entre guillemets, passer au-dessus de la peur, de se dire « Je me présente », et le fait de se présenter en tant que va fatalement réduire la possibilité de pouvoir conclure une relation, ou ne fût-ce que commencer une relation. Donc, et parfois, je trouve ça peut faire peur, ou dire « Je le dirai après, ou alors je vais le présenter autrement, ou comment je vais le présenter. » Et donc, un petit problème de conscience, quoi. Voilà.
Il y a l'inconvénient inverse, c'est quand on dit qu'on est pluriamoureuse, et que finalement, on n'a pas envie de relation avec l'homme avec qui on parle, et qui dit « Quoi ? Mais je croyais que tu étais pluriamoureux, je croyais que tu étais libérée, et qui ne comprend pas pourquoi on dit non. » Et donc, aussi expliquer que ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tout le monde. Donc c'est vrai que parfois il y a des mauvaises interprétations. Pour parler de l'exclusivité, c'est vrai que c'est un truc qui est très caractéristique, c'est que dans le mariage civil, non pas religieux, on parle de fidélité au sens exclusivité sexuelle. Mais par contre, cette obligation de fidélité n'existe pas dans le Pax. Et voilà, ils l'ont enlevé. Et donc, ça veut bien dire que le mariage du Code civil qui a été fait en 1804, du temps de Napoléon, était totalement inspiré par la religion. Et c'est pour ça qu'il y a cette obligation de fidélité sexuelle. Mais sinon, dans le fait de deux personnes qui s'aiment, qui veulent partager des choses, qui ont un projet de vie commun, eh bien, le Pax montre bien que qu'est-ce qui est important, c'est la confiance, c'est la façon dont on arrange les choses, c'est pas l'exclusivité sexuelle.
Oui. Ah oui, en fait, moi je me considère a priori comme polyamoureux en quelque sorte, bien que je sois seul. Donc pour parler de cette question, c'est pas parce que je suis seul que je me considère comme cherchant à être seul ou avoir ce modèle-là comme projet de vie. Je voulais dire autre chose par rapport à ça. Oui. C'est clair que quand on rencontre quelqu'un en tant qu'homme et qu'on dit à une femme qu'on est polyamoureux, bah, est-ce que ça a plus ou moins de côté répulsif que de dire qu'on est chômeur ? Je sais pas. Mais c'est pas loin. Et comme j'ai les deux qualités, ben c'est super. Mais n'empêche, Je me vois mal mentir là-dessus, parce que j'ai pas le temps, vu mon âge, de commencer une relation en mentant là-dessus, et puis quoi. Bon, voilà.
Enfin, je pense que le problème, c'est les modèles culturels de la monogamie. Et il y a une réaction des consciences, des gens qui comprennent que ça, c'est une imposition culturelle. Et tout ce qu'on doit dire, c'est que je suis informé que la monogamie, c'est antinaturel, c'est imposé par la culture. Et moi, je suis informé de ça. Je suis tout consciente que la monogamie, c'est pas une chose naturelle. Et le reste, c'est mon droit de vivre informé par ça. Parce que si on est polyamoureux, pluriamoureux, etc., il y a trop de connotations. Il y a des gens qui, comme vous disiez, pendant les âges, ils changent son besoin. Parfois, c'est simplement du libertinage. Parfois, c'est un engagement parce qu'il arrive, parce que la relation reste dans le temps. Mais le plus important, c'est simplement informer les gens que la monogamie, c'est une imposition culturelle. Et les gens ici, je pense, sont tous informés que c'est ça qu'ils nous sont en train de réagir, de dire c'est pas juste que tout le monde a imposé dans un modèle qui marche pas, et que c'est pour ça que tout cette débâcle, la famille monoparentale, et la monogamie en série, etc. Quand les choses se dévivent plus honnêtes avec les sentiments, etc. Mais c'est partir de là, c'est une réponse contre la monogamie. Le reste, c'est à vous de décider comment vous vivre cette information.
Je vais optimiser les trajets, donc tant que tu pars ici.
Oui.
Ok, faire. J'ai une petite constatation aussi entre la cohabitation, je veux dire, entre les poly, les pluri et les mono. Il y a, donc, quand on annonce qu'on est pluri, il y a plusieurs types de réactions. Ça peut être un oui, un non. Moi, je dis souvent. C'est pas trop mon trip, mais je veux bien essayer. Et dans ces cas-là, ben, parfois ben, ça marche pendant peut-être une semaine ou un mois. Parfois c'est plus longtemps. Et alors ben, vient la question, ben, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'autre partenaire qui est plutôt mono et qui campe sur ses positions en souffre? Et est-ce qu'à ce moment-là, continuer la relation, est-ce que ça devient pas un peu je sais pas, du masochisme ou du sadisme d'un côté ou d'un autre? Voilà. C'est une petite question, constatation.
Je crois que quand il y a une relation amoureuse, il y a toujours de l'amour et il y a toujours de la souffrance, quoi qu'on fasse, qu'elle soit monogame ou pas, parce que quand ce sont des sentiments, ce sont des émotions qui sont fortes et ça génère toujours du plaisir et de la souffrance.
Je sais pas, moi j'ai juste revenir à la question des âges. Je retrouve un peu, enfin 20 ans, la question de l'abandon, même si on ne le vit pas, on y est fort confronté dans les relations avec les autres personnes. Et à 30 ans, c'est vrai qu'après, quand 30-40, c'est la question des projets professionnels. Moi j'ai de plus en plus de mal à parler de ce que j'appelle une disposition relationnelle. Je sais pas me dire polyamoureux, pluriamoureux. C'est que ma disposition relationnelle, elle est non exclusive, voilà, ouverte. Et c'est plus une manière d'être. Mais après, c'est il y a aussi, je sais pas, je crois qu'on parle d'âge. J'ai l'impression dans les deux autres âges que j'ai pas encore connus, je retrouve déjà des questions que je me suis posées. Et je pense que c'est à partir, enfin ça vient simplement aussi, enfin c'est la question de l'autonomie dont on a parlé, qui joue beaucoup, l'autonomie affective, de ne pas dépendre de quelqu'un, mais de faire porter le poids à l'autre, de dépendre de lui. Je crois que c'est, il y a moyen de l'aborder de différentes manières en plus cette question. Et ça revient souvent à la question de simplement de retrouver une personne aussi en face de soi et de pas un peu comme vous parliez tout à l'heure avec votre mère qui souhaitait revoir votre mari si jamais à cette époque-là, enfin vous hésitiez à vous séparer. Mais c'est à un moment donné, on n'a pas choisi de naître homme, femme à telle époque, à tel âge, d'être comme ci, comme ça. C'est arrivé à avoir une relation de personne à personne. Et c'est un peu... moi, la question que je me pose peut-être plus là maintenant, ça n'a plus grand-chose à voir avec une différence monogamie ou polyamour ou pas. C'est plus comment arriver à ce contact où on est vraiment... On sent une relation de personne à personne et de le reconnaître là où il a déjà eu lieu, en fait, à un moment donné. Parce qu'il a souvent lieu, quoi. C'est... Et après, voilà. Ouais, je crois que je vais en rester là, sinon je vais tout en rond.
Sur l'idée que la monogamie n'est pas naturelle, il suffit même parfois de dire aussi que c'est un modèle essentiellement occidental, qui a un tas quand même de civilisations qui ne vivent pas dans la monogamie. La polygamie, c'est pas pareil que le polyamour, mais c'est aussi une autre façon que la monogamie de vivre. Ça n'est pas naturel aussi parce que nous sommes des mammifères et qu'on s'aperçoit que les mammifères ont quand même pas mal de partenaires dans leur vie. Mais par contre, je condamne pas les gens qui croient en la monogamie parce que c'est aussi leur choix et ils sont très influencés par la culture. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, les croyances évoluent. Il y a 3 ans, j'étais allée à une émission de radio où on avait demandé « Pensez-vous qu'il est possible d'aimer sincèrement 2 personnes en même temps, au même moment ?» À l'époque, 67% avaient dit « Non, c'est totalement impossible. Si on aime quelqu'un, on n'a pas envie d'en aimer une autre. » Et puis on l'a reposé la question, là, il y a même moins de 3 mois, exactement la même, et le pourcentage est inversé. 67% dit « Oui, c'est tout à fait possible d'aimer plus de 2 personnes en même temps, mais ce n'est pas facile. » C'est-à-dire que maintenant, il y a déjà eu un gros progrès, c'est que quelque chose qu'on vous disait impossible, maintenant apparaît comme possible. Et sur un plan plus politique, je trouve que c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, ou dans la crise économique, par exemple, on vous dit on ne peut rien changer, il y a la mondialisation, le système est bloqué, il est impossible de changer. Moi, je suis persuadée qu'on peut changer, qu'il y a plein de possibilités de changer. Simplement, dans la tête des gens, la croyance est là que c'est impossible. Mais il y a des progrès qui se font, puisque ça et là, il y a des petites révolutions ponctuelles et locales, exactement comme les amoureux pluriels font leurs petites révolutions personnelles et locales, mais que petit à petit, l'idée progresse. Et je crois que c'est comme ça que ça progressera. C'est pas en attaquant bien sûr les monogames, il faut leur dire voilà, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, c'est pas dans la nature. Il y a même un religieux, un pasteur qui a dit l'homme s'est fixé comme but de n'avoir qu'un seul amour dans sa vie et il souffre toute sa vie de s'être fixé un but impossible. J'avais entendu ça sur Arte, j'avais trouvé ça très joli. Mais on sait que les croyances, c'est ce qui fonde les civilisations. Donc changer de croyance, c'est extrêmement difficile, mais on s'aperçoit quand même qu'en 10 ans, ça a quand même beaucoup évolué. Donc vous, chaque jour, où vous en parlez, sans porter un message de prosélytisme, simplement en disant « je le vis » et voilà, ça montre aux gens que même si pour eux, pour l'instant, c'est pas possible, ça n'est pas impossible dans l'absolu. Alors ça fait quand même évoluer les choses. Et pour l'histoire des âges, oui, bien sûr que ça dépend des âges. Avoir 30 ans aujourd'hui, c'est pas pareil qu'avoir eu 30 ans dans les années 60, 70 ou 80. Il y a des gens qui sont très, très mûrs à 20 ans parce que la vie les a obligés à devenir autonomes. Par exemple, ils ont été orphelins très tôt, ils ont dû se débrouiller ou élever leurs petits frères et sœurs. Et puis, il y en a d'autres qui, à 40 ans, sont encore totalement immatures. Donc, j'ai donné des âges, j'allais dire, théoriques. Et puis... Voilà, et puis qui recoupe des choses un peu majoritaires, mais c'est vrai qu'ensuite chacun a sa propre évolution, à son propre rythme. Mais la grande progression, c'est la progression dans la confiance en soi. Je crois que vraiment la confiance en soi, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on puisse donner à ses enfants, c'est de leur donner confiance en eux. Et il y avait eu autre chose, mais j'ai oublié.
La cohabitation entre poly et mono.
Ah oui. Oui, oui. Alors, c'est plus facile pour les filles, paradoxalement, que pour les hommes. C'est-à-dire que moi, quand je dis « je suis fidèle, mais pas exclusive », il y a beaucoup d'hommes qui trouvent ça super en se disant « celle-là, elle ne va pas être emmerdante ». Et puis qui, même, quelque part, ont un côté aussi admiratif, en disant quand même « tu es une fille vraiment autonome ». Autonome, pas libérée forcément sexuellement, mais tu es quelqu'un d'autonome. Puis du coup, ils savent aussi qu'on aura des relations qui ne seront pas que amoureuses, qui seront aussi intellectuelles. Moi, j'ai plus souvent partagé un univers avec des hommes, je suis comme vous. Et dans cet univers, à un moment donné, pouvait survenir le désir. Mais je venais pas dans la relation d'abord avec le désir. Le désir, il naissait de la relation. Et donc, pour les filles, c'est plus facile. Pour les hommes, moi, en tout cas, c'est ce que m'a dit Bernard. Il me dit, moi, si je leur annonce que je suis polyamoureux, elles partent en courant. Non, bon, pas toujours, mais ça arrive. Voilà.
Et
Que doit-on faire au cas où il y a une mono, un poly, et qu'il y a une relation assez fusionnelle, où il y a de l'amour? Est-ce qu'on doit faire, on doit procéder à la rupture, ou il faut continuer comme ça?
Alors, quand on me dit qu'est-ce qu'il faut faire, je dis je ne sais pas, parce que tout dépend vraiment de l'histoire des gens, comment ils sont. Par contre, il existe, et j'en connais plusieurs, dont un Belge d'ailleurs, où il y a un des membres du couple qui est mono, l'autre qui est pluri. La personne, c'est là, c'est la femme qui est mono, mais parfois c'est l'inverse. Elle a essayé d'être pluriamoureuse, elle a même eu une ou deux relations, puis elle est revenue vers son mari en disant « Écoute, ton truc, moi non, ça ne me convient pas, mais je comprends très bien que tu aies besoin d'avoir d'autres connaissances. Alors simplement, tu me dis « Je ne serai pas là tel jour, je ne serai pas là, mais tu ne m'en parles pas trop. » Et puis à la fin, un peu comme votre mère, elle lui a dit « Bon, ben, je sais que tu es comme ça, mais tu ne m'en parles pas toutes les semaines. » Et maintenant, ça doit faire 10 ans qu'ils sont comme ça, et ça a renforcé leur amour parce que lui m'a dit « Elle a fait un tel effort » sur elle-même, pour comprendre comment j'étais, alors qu'elle, elle est fondamentalement différente, que je l'admire profondément et que je l'aime d'autant plus profondément. Donc parfois, ça peut approfondir le couple, d'autres fois, ça le fait exploser. Hein. Donc il n'y a pas de règle.
J'avais rencontré une personne qui me disait « Moi, je veux être avec une seule personne. Je veux qu'on se marie. » Mais, alors elle avait une image assez surprenante, elle disait « Bon, tu vois, si tu vas avec des amis boire un verre, tu ne dois pas me le dire. » Et donc, pour elle, c'était une image, une façon de dire, aller boire un verre. Elle mettait ça comme image pour avoir une relation en dehors du couple. Et le fait de m'interdire de le dire, c'était une façon, évidemment, de me placer comme dans une position de culpabilité et de m'interdire de m'investir dedans aussi. Donc, c'était inacceptable pour moi. Enfin,
il faut aussi...
Je crois aussi que parfois, sur cette histoire de dire, pas dire, il peut y avoir des manipulations perverses. J'ai eu un exemple d'un couple qui en a discuté beaucoup, qui en a même discuté devant un thérapeute, tout ça, sur les amours pluriels, tout. Ils ont lu mes livres, ils ont discuté. Et la femme a dit ça à son mari. Bon, d'accord, tu peux avoir des relations, mais je veux rien savoir. Alors lui, ça l'ennuie un peu parce qu'il est franc, donc il lui dit « Mais je te dirai quand même si je suis sorti à un moment donné. » Et puis un jour, il est sorti, il est allé boire un verre avec une amie, et puis ça s'est prolongé par un rapport sexuel. Puis il est rentré pour dîner chez lui, et puis il dit « Oh, excuse-moi, j'arrive un peu tard, j'ai pris un verre avec une telle. » Et elle aurait dû dire « Ok », puisqu'elle avait vraiment dit « Je ne veux rien savoir ». Et puis, un peu plus tard, elle est revenue à la charge. Elle dit « Dis donc, tu dis que tu es allé prendre un verre, mais est-ce que c'était juste un verre ou pas ?» Et alors là, il était vraiment coincé dans une manipulation perverse, parce que s'il lui disait « Oui, c'est juste un verre », il lui mentait, et il n'aime pas le mensonge. Mais donc, il lui a dit « Non, ça a été un peu plus quand même. » Et là, il lui a fait une scène terrible, en disant « Je t'avais dit que je ne voulais pas savoir ce genre de choses, etc. » Et alors, quand il me l'a raconté... Et alors, lorsqu'il me racontait en me disant « j'ai eu un gros clash », etc., mais je lui dis « mais là, c'est un clash qui était inévitable, puisqu'elle te mettait dans une injonction paradoxale. Je ne veux rien savoir, mais je te pose la question. Et si je te pose la question, soit je te force à mentir, ce qui pour toi est douloureux, soit si tu me dis de la vérité, j'explose. » Et donc, j'ai dit « là, il faut vous mettre vraiment d'accord sur si tu veux rien savoir, tu ne poses pas de questions. C'est complètement ton droit de ne rien savoir, mais dans ce cas-là, il ne faut pas poser de questions. » Et il y a parfois des jeux de manipulation un peu perverses là-dedans.
Bien. Belle rencontre avec Françoise.
La vie est compliquée. La vie est compliquée.
Bon, je fais un dernier tour avec mon regard. Voilà. Quelqu'un a encore envie de terminer? Oui.
Voilà, Marc. Une petite anecdote sur les valeurs et les façons de les ressentir. J'avais une discussion hier avec une amie avec laquelle je parlais de tout ceci. Et elle me dit, oui, mais tu sais, moi, je ne me sens pas du tout poli, pluri, etc. Je lui dis, oui, mais tu as un ami, tu ne te caches pas d'avoir eu beaucoup d'amants et d'avoir eu des aventures, et de ne pas ressentir de culpabilité, donc d'avoir trouvé ton équilibre, ou une partie de ton équilibre, ou momentanément ton équilibre comme ça. Oui, mais je sais bien que ça n'est pas ma nature. Je veux un couple unique et fidèle. Et c'est un petit peu paradoxal. C'est pas tout à fait. Et une autre petite idée, mais qui est toute simple, à laquelle je pensais hier. J'ai connu une amie qui était ma maîtresse du temps où j'étais en couple avec une autre personne. Et elle me partageait très bien. Et c'est devenu très difficile quand la séparation s'est faite avec l'autre personne et qu'elle est devenue la maîtresse, entre guillemets, première ou attitrée, et qui n'a pas du tout apprécié que je renoue contact avec une ancienne maîtresse qui faisait déjà partie de ma vie avant elle, avec qui les sentiments existaient déjà, mais ça ne s'est pas du tout bien vécu. Elle a ressenti un très grand abandon à ce moment-là.
Je pense que le principal problème, c'est que les femmes n'ont pas les mêmes revendications à faire que les hommes. On est vraiment dans la société complètement... pour les hommes, cette revendication d'être un homme monogame, c'est complètement différent que pour les femmes. Les femmes, ils sont encore beaucoup à se battre, et je pense que les hommes ont encore un travail énorme dans la société à respecter les droits des femmes d'être soi-même et de se connaître à soi-même. Mais dans la société, ça n'existe pas. C'est complètement décalé les jugements que les femmes souffrent. Et c'est pour ça que peut-être elle dit, moi, j'aime ça. Elle peut avoir des amants, elle peut avoir des aventures, etc. Mais elle dit, moi, je dois, parce que la société demande à les femmes, parce que, enfin, toute cette monogamie, toute cette idée de couple vient pour contrôler la sexualité féminine. C'est simplement ça. La femme a été toujours une propriété masculine. Et ça, c'est le vrai problème dans la société. Comment donner les femmes les droits à être soi-même?
C'est une fois un homme qui m'a dit, oui, mais c'est normal que les hommes soient polygames parce que eux, ils savent toujours s'ils sont le père, tandis que si une femme a des enfants et qu'elle a plusieurs amants, on ne sait pas qui est le père. Alors lui, il trouvait que c'était normal que les hommes trompent leurs femmes, mais pas les femmes, tu vois. C'est une histoire.
C'est souvent oui. Ce que les polygames disent, en fait, au Sénégal, j'ai discuté avec beaucoup de personnes, je suis retournée plusieurs fois, et donc il y a quand même une grande majorité là-bas qui est polygame, et j'avais discuté avec quelqu'un qui avait pour l'instant une seule femme, et qui dit, tu sais, ça fait 10 ans que j'ai la même femme, j'ai un peu envie d'aller voir ailleurs et tout, ben, je dis, oui, je peux tout à fait te comprendre. Oui, mais donc, tu me dis, je vais me marier, avoir des enfants. Mais je dis, mais pourquoi tu mélanges tout? Pourquoi tu mélanges tout? T'as déjà dur à aller bosser, t'as dur à assumer pour tes enfants, et tout ça parce que tu veux rencontrer une autre personne, tu vas de nouveau refonder quelque chose. Mais oui, mais ça se fait pas alors. Donc vraiment, pour eux, les polygames, c'est comme ça. Et c'est ce qu'ils m'ont dit, parce que alors j'étais en fond d'un truc. Je dis, moi, je suis tout à fait d'accord, hein, polygame, je trouve ça génial. Je dis, mais t'es d'accord que alors, si moi je suis ta femme, j'ai le droit aussi d'avoir... Ben non, ça ne va pas. Je dis, mais pourquoi? Et justement, c'est ce qu'ils m'ont dit. Parce que s'il y a des enfants, après, on ne sait plus. Et la personne qui doit payer, c'est le mari attitré. Et après, c'est qui alors? Qui est-ce qui va payer pour nourrir les enfants? Et c'est ça leur problème. Enfin, en tout cas, là-bas.
Moi, j'ai une petite anecdote, mais à l'inverse de vous. Donc, mon nouvel amoureux m'a dit que si, à un moment, ça finissait avec mon mari... que ça ne pourrait plus marcher avec lui. Je dis, mais comme ça. Alors là, c'est carrément le monde à l'envers. Et il me fait, oui, mais moi, justement, j'ai besoin d'une demi-amoureuse parce que j'ai essayé les couples monogames et ça ne me convient pas du tout. Donc moi, je suis très contente que tu sois polie parce que ton mari s'occupe aussi de toi et que donc je ne dois pas, pour un tas de sujets, te satisfaire et t'écouter ou je ne sais pas quoi. Et donc, il m'a dit, voilà, si ça finissait, moi, j'étais un peu paf parce que je me suis dit, bon, j'ai mon nouvel amoureux, on est en pleine passion, il me sort un truc pareil. Bon, juste alors. Puis je lui ai dit, tu sais, mon amour, faut pas t'inquiéter, parce que si jamais, par malheur, ça finissait avec mon mari, j'en trouverai un autre. Hein.
Cela dit, ça voudrait pas dire que ça marche avec l'autre. Parce que, en fait, dans toutes ces configurations, il y a un équilibre qui se crée. Et quand l'équilibre est modifié parce qu'il y a un nouvel amoureux qui arrive ou qu'il y en a un qui s'en va, etc., il y a toujours une période d'adaptation, comme dans tout changement. Hein, et l'adaptation au changement, c'est le stress. Hein, enfin, plutôt le stress, la définition du stress, c'est l'adaptation au changement. Donc, forcément, ça crée quelque chose. Chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui est arrivé dans notre vie, moi, j'ai eu une petite période d'adaptation, me dire qu'est-ce que ça va changer dans l'équilibre qu'on s'est créé. Et inversement, enfin, je pense que c'est le cas pour tout le monde. On s'habitue, on se voit que tout ça se passe bien, et puis on s'est dit, ouh, la nouvelle, ou le nouveau, est-ce que ça va pas faire un grain de sable qui va détruire ce truc bien solide ?
Ou l'absence,
voilà. Voilà. Et pour l'histoire des enfants, ben, de toute façon, historiquement, c'était ça. Hein. C'était pourquoi on a créé le couple monogame. C'était parce qu'autrefois, les couples, c'était fait surtout pour rassembler des terres, des champs, des propriétés. Et qu'effectivement, le propriétaire des terres, il voulait être sûr que les enfants qui en hériteront seraient bien de lui. Sauf que, en fait, c'est complètement illusoire, puisqu'il y a eu des tests qui ont été faits ou des enquêtes, et qui montrent que même dans les couples monogames, dès qu'ils ont 3 enfants, dans je ne sais plus quel pourcentage de cas, mais c'est beaucoup, il y en a un qui n'est pas du mari. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien d'essayer comme ça d'emprisonner la femme. Voilà, c'est pour ça que plutôt que d'essayer de l'emprisonner, il vaut mieux admettre que peut-être même que ces histoires d'héritage, c'est peut-être un peu crétin et à revoir. Enfin, bon, qui est le vrai père ? Est-ce que c'est celui qui élève les enfants et qui les a ? Ou est-ce que c'est celui qui est biologique ? Aujourd'hui, avec toutes les procréations médicales, finalement, si on disait c'est le spermatozoïde congelé le vrai père, le petit garçon donnerait un spermatozoïde et dirait « Tiens, papa, je te dois plus rien hein. ». Donc voilà, c'est quoi ce qui crée la paternité, maternité. Mais en fait, d'origine, c'était ça, c'était ne pas disperser et ne pas risquer de donner ses biens à des bâtards, comme on disait autrefois. Hein. Mais maintenant, c'est plus le cas, quoi.
Il y a aussi un point très essentiel dans le problème, c'est que aussi bien toutes ces législations ou ces religions, ces sectes archaïques, se sont créés à des moments où la place de la femme était complètement différente que la place qu'elle occupe actuellement. Je ne dirais pas qu'elle était au deuxième plan, mais elle avait un rôle relativement secondaire. Et c'était le chef, la société patriarcale, qui décidait quasiment de tout. Et y compris la possibilité, évidemment, d'avoir d'autres femmes sur le côté.
Moi, il y a une chose qui m'avait révoltée, c'est pour ça, aujourd'hui, il y a la bataille pour le mariage des homosexuels, que longtemps, je me suis dit, mais pourquoi ils veulent se marier alors que nous, on a tellement milité pour l'union libre et pas se marier. Mais en fait, c'est simplement parce que le Pax ne leur donne pas les mêmes droits. Ils croient qu'ils ont les mêmes droits et puis se font avoir sur les histoires de succession ou de différentes choses. Donc maintenant, je comprends tout à fait pourquoi ils veulent se marier. Mais en fait, moi, ce qui m'avait révoltée contre le mariage, c'est que dans le premier code civil, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus quand est-ce que ça a été aboli, une femme célibataire était majeure. Quand elle se mariait, elle redevenait mineure. Ce qui voulait dire que, voilà, elle redevenait mineure et sous l'autorité du mari. Alors que quand elle était célibataire, elle était majeure.
Il n'y a pas si longtemps que ça, ici en Belgique, elle ne pouvait pas avoir de compte bancaire sans l'autorisation du mari.
En France, les femmes ont eu le droit de travailler et d'avoir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari en 1965 seulement. C'est quand même pas si ancien que ça, quoi. Et pendant des années, on versait les allocations familiales directement à l'homme. Moi, je me souviens d'en avoir refusé, d'avoir téléphoné au système des allocations parce qu'il me l'avait envoyé au nom de Madame Bernard, sa père. J'ai dit déjà que j'utilise son nom, ce n'est qu'un droit d'usage. Mon vrai nom reste mon nom de jeune fille. Mais en plus, je ne m'appelle pas Bernard, je m'appelle Françoise. Alors, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, je dis, vous refaites le chèque. Moi, je refuse un chèque qui est adressé comme ça. Puis en plus, j'ai toujours refusé le compte joint aussi. Parce que je ne vois pas pourquoi, sous prétexte qu'on aime quelqu'un, on doit tout mettre en commun. Il y a suffisamment d'histoires d'argent dans les divorces qui sont sordides pour que je pense que ce soit bien que chacun gère ça et fasse le pot commun pour les choses communes. Ça évite beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais on sent bien que c'est vraiment pour la, comme vous le dites, pour la subordination de la femme. Et puis c'est pas fini, hein. Il y a encore quand même un bon paquet de machos qui trouvent que c'est naturel. Hein.
Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 12 ans, en Italie, il fallait encore le consentement du mari pour que la femme ait un passeport.
Mon mari n'est pas normal. Surtout pas.
Je vous parle de livre, peut-être.
Oui, ben voilà, je pense qu'on peut remercier Françoise.
Encore une autre réflexion. Parce que j'avais discuté avec quelqu'un qui me posait la question, à savoir, bon, mais
tu imagines un groupe social où des gens auraient des enfants de différents, ne sachant pas toujours de qui est le père éventuellement. Qu'est-ce que ça peut poser comme problème pour les enfants? Je dis, ben, avec la technologie actuelle, on peut faire un test de chromosomes. Mais le seul intérêt de ça, c'est pour les enfants, à savoir avec qui il pourrait y avoir une incompatibilité au niveau de s'unir après. Et pas du tout au niveau de qui va être le père de fait, la mère de fait, enfin, dans le vécu, quoi.
Et un dernier petit mot aussi, à travers tous les âges, ça se passe bien.
Je vais faire une conclusion. Il y a quand même une chose, moi j'ai remarqué, c'est pour ça que bien que j'en ai un peu assez de parler de ce sujet, je viens de temps en temps d'un café polyamoureux, c'est qu'il y a quand même, globalement, à 90%, une bienveillance entre les pluriamoureux, une façon de ne pas traiter l'autre de crétin parce qu'ils ne pensent pas exactement pareil, une façon d'admettre que certains ont des difficultés, que ce n'est pas si facile, qu'on rencontre très très rarement chez les monogames, qui vous diront, mais c'est comme ci, mais c'est comme ça, ça doit être comme ça. Et je trouve que ça, c'est... Alors des fois, on nous dit, vous êtes des bisounours. Eh bien moi, je revendique le droit d'être un bisounours. Parce que les bisounours, c'est vachement mignon, et je ne vois pas pourquoi on ne s'aimerait pas plutôt de la bienveillance autour de nous que des... Voilà, que des affrontements. Et je trouve que ça développe un esprit de dialogue et de tolérance dans tous les domaines qui est quand même très très appréciable. Alors, rien que pour ça, je trouve que le pluriamour aura fait de bonnes choses. Alors, à propos de tolérance et de bienveillance, j'ai apporté quelques livres. Alors, pas beaucoup parce que j'étais en train et que c'est lourd. Donc, j'ai quelques Aimé plusieurs hommes pour ceux qui n'ont pas encore lu ce grand livre. Il serait temps quand même que vous connaissiez tout dans les détails. Et puis, j'ai apporté, parce que c'est bientôt Noël, j'ai fait une maison d'édition avec mon mari, dont le but, c'est de publier des textes soit existants déjà, mais complètement oubliés, soit des textes inédits, qui permettent d'imaginer un monde plus souriant par rapport à celui où on vit actuellement, qui n'est pas tellement terrible. Et ces contes, qui s'appellent Imlico, le huitième enfant, c'est des contes que j'avais lus quand j'avais 7 ans, et qui m'avaient vraiment beaucoup marqué, parce qu'on n'y montrait que des enfants débrouillards, garçons et filles totalement égaux, ce qui est quand même rarissime, et puis qui naviguait dans l'espace et le temps, ce qui fait forcément rêver. Par exemple, il y a une histoire où une petite fille lit un conte, et puis elle se dit « je rencontrerai bien le prince du conte », elle voit l'image de son château, elle pose la main sur la porte s'ouvre, elle se retrouve au XIIIe siècle. Moi, ça m'a fait rêver, vous ne pouvez pas savoir. Ou bien un monsieur qui est devenu éternel, je ne vous raconte pas comment, mais c'est une belle histoire. Et ces contes, un jour, j'en avais parlé dans mon blog, dans un billet qui s'appelait « Les bons contes font les bons acquis », parce que je m'apercevais que, mine de rien, il y avait des valeurs dedans de tolérance, de solidarité, d'intelligence, de féminisme, qui m'avaient forcément marqué alors que j'avais 7 ou 8 ans quand je les avais lus. Puis un monsieur m'a écrit en me disant « Je suis super content que vous ayez parlé de ces contes comme ça, parce que c'est ma sœur qui les a écrits et elle est morte ce mois-ci. » Et c'était... un hasard que moi j'en ai parlé, lui c'est pas un hasard qu'il m'ait trouvé, il avait googlisé sa sœur et il avait trouvé. Et sa sœur avait 93 ans quand elle est décédée, lui c'était le petit frère, il avait 73 ans. Donc je lui ai écrit en lui demandant s'il pouvait m'envoyer un exemplaire parce que le mien était en lambeaux. Il m'a dit mais ça n'a plus été édité depuis 1965. Alors du coup je lui ai racheté les droits, j'ai réédité ses contes. On en a même rajouté un qui était inédit dans la première version, et j'ai fait demander à une graphiste de faire des choses plus modernes, parce que les anciens dessins, d'abord je ne connaissais pas la graphiste. Et ces contes, mes filles les ont lus, mes petits-neveux qui ont 5 ans les ont lus, enfin leurs parents leur ont lu. Et il y a un monsieur qui m'en a acheté au marché de Noël l'an dernier. Je lui dis, il m'en achète d'abord un, puis il m'appelle, il me dit, je peux passer chez vous, ça m'évitera les frais de port. Alors je lui dis, bah, passez si vous voulez, et il m'en achète 5 d'un coup. Alors je lui dis, vous avez 5 petits-enfants? Il me dit, pas du tout, c'est pour mes copains. Parce que je pense qu'à 80 ans, lire des livres aussi dynamiques, aussi optimistes, ça peut faire du bien. Et donc ce sont des contes de 5 à 85 ans, sans problème. Et j'ai appris, alors du coup, Micheline Morel, l'auteur de ces contes qui était décédée, j'ai cherché qui c'était, et j'ai compris pourquoi elle avait fait tellement des contes sur la tolérance. C'est que c'est une femme qui était résistante, qui a été déportée à l'âge de 24 ans, en tant que résistante. elle est sortie du camp de concentration. Elle avait été très, très amoureuse d'un homme, un Polonais, un aviateur. Quand elle est sortie du camp de concentration, lui s'était marié. Et du coup, finalement, ils n'ont jamais connu leur belle histoire d'amour. Et elle s'est jamais mariée. Alors, elle en voit une qui était monogame absolue. Vous voyez, comme soi, je suis très ouverte. Mais elle a adopté une fille qu'elle a élevée. Et puis, elle s'est beaucoup occupée de ses neveux. Et elle a toujours voulu transmettre, justement, des choses contre l'intolérance qu'elle avait subie. Et qu'elle avait vue aussi dans les camps de concentration. Donc c'est pour ça qu'on a réédité ces contes et on vient de refaire le site avec une petite vidéo qui montre un petit peu la jeunesse de ces contes. Et le site a été fait par ma fille, on fait tout ça en famille. Voilà.
Voilà, je propose que le petit coin dédicace ait lieu dans le petit coin salon ici en bas, comme ça on sera tous ensemble.
Et on boira une menthe, oui.
Voilà, avec Alice qui va donner un petit coup de main. Voilà, c'est près de la porte d'entrée à droite, le petit coin salon avec Françoise. Oui, dédicace.
Je voulais poser une question. Si ceux qui veulent de la menthe lèvent la main, je sais combien de litres je t'en mettrai chauffer. 1, 2, 3.